appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange et de partage. Le projet de loi sur la répartition des sièges a été déclaré recevable mercredi 31 mai à l'Assemblée nationale et envoyé à la Commission politique, administrative et juridique pour approfondissement et toilettage. L'essentiel des préoccupations des élus du peuple était l'inadéquation entre le nombre d'électeurs inscrits et le nombre des sièges attribués à chaque circonscription électorale à travers les territoires nationaux. Plusieurs députés nationaux réclament des sièges perdus. Notons par ailleurs que les députés nationaux du Front commun pour le Congo FCC ont boycotté l'examen de ce projet de loi. Comment commentez-vous cette actualité? Merci d'avoir été nombreux à déposer vos messages sur WhatsApp. Parole aux auditeurs. Mimi Kindou assure la mise en onde de ce magazine. Que Pierrot et la Mingi, j'ai le réel plaisir de vous présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à toutes et à tous.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Comme je vous l'avais dit, même sur la page Facebook, compte tenu des difficultés de pouvoir vous joindre par des lignes téléphoniques normales, l'émission se déroule sur WhatsApp, comme nous avons déjà reçu nombreuses de vos réactions ainsi que vos points de vue. Et dans ce studio, nous recevons Monsieur Paulin Odiané, député national élu du Suro dans la province de Haute-Uele. Monsieur Paulin Odiané, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on peut dire, d'abord avant d'entrer dans les considérations sur ce projet de loi, on peut dire que l'examen du projet de loi portant répartition des sièges est un exercice normal dans le processus électoral?
Merci beaucoup pour la question. Nous saluons tous nos auditeurs ainsi que toute la population qui sont éparpillés à travers le monde, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Pour répondre avec précision à votre préoccupation, c'est un exercice normal. On ne peut pas aller aux élections sans qu'il y ait la loi sur la répartition des sièges. Donc, après l'enrôlement, il faut effectivement passer à cet exercice. Donc, il n'y a rien de tabou sur le plan des principes.
Alors, s'il n'y a rien de tabou, pourquoi cette fois ça fait débat?
Oui, ça fait débat. Le problème n'est pas le projet de loi portant répartition des sièges. Le problème est sur le principe. Donc le principe est biaisé. D'abord au niveau de l'enrôlement. Vous savez que l'enrôlement ne s'est pas déroulé correctement parce qu'il y a des circonscriptions électorales là où il y a des problèmes. Il n'y a pas eu enrôlement, notamment Kwamutu qui est tout près ici. On n'a pas enrôlé la population. Et si donc Masisi également, Rutshuru, il n'y a pas eu enrôlement. Et il était normal que tout le monde soit enrôlé, mais on peut y avoir des problèmes au niveau peut-être de l'organisation des élections dans toutes ces circonscriptions qui sont sous occupation. C'est-à-dire
que pour vous, la logique aurait été simple. On stoppe le processus en attendant qu'on puisse embarquer les autres territoires qui ne sont pas enrôlés. Et puis après, maintenant, on peut poursuivre. Est-ce que cela ne pouvait pas aussi créer encore ces débats sur le respect des délais, les glissements, tout ça?
Donc, il y a beaucoup de problèmes pour aller... Donc, il y a beaucoup... des préoccupations en ce qui concerne le processus. Vous savez, l'enrôlement, la carte même que nous avons pose problème. On ne sait pas ce que la CENI a fait concrètement pour trouver une société qui n'est pas à même de nous produire de cartes de qualité. Ça pose problème. Vous savez, il y a des gens qui réclament que non, voilà, ils ont des cartes, mais il n'y a plus de photos sur leurs cartes. Donc, tout ça, c'est un problème. Et puis c'est un noir blanc, ça pose problème et pour l'identification même de la personne. Et puis un autre problème reste la société ou les individus que la CENI a contacté pour le toilettage de ces fichiers. Donc tout ça, ça pose un sérieux problème au niveau des processus. Donc il fallait commencer par résoudre toutes ces préoccupations avant de nous apesantir sur la loi portant répartition des sièges.
Mais parce qu'il y a, j'ai suivi, sans répondre au nom de la CENI, hein, il y a chaque vendredi l'équipe de la CENI qui passe ici à Radio Capi pour une émission sur le processus électoral. Je crois qu'il y a, ces questions ont été posées par les auditeurs. La CENI a annoncé il y a un certain nombre de mesures, par exemple pour la correction ou les gens qui ont perdu les photos sur leur carte. Je crois peut-être qu'au niveau de la CENI, on peut avoir des réponses sans répondre à leur place. Mais parce que tout cela a été déjà fait, on est maintenant à l'étape de la loi. Et vous êtes à l'Assemblée nationale. La loi a été déposée, elle se discute, les uns ont boycotté. On estime qu'il y a encore des problèmes. Maintenant, qu'est-ce qui doit être encore au fait? Parce que là, on est déjà dans le fait que la loi est examinée.
Bon, nous, Congolais, il y a un problème. Nous devons d'abord aimer notre pays. Aimer notre pays signifie travailler pour l'intérêt général. Et nous devons cesser de continuer avec le même système, c'est-à-dire lorsque on organise ou on cherche à organiser une élection, il faut que tous les processus soient biaisés, il faut qu'on travaille pour l'intérêt de X et Y, et là, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas aider le pays. Il faut que nous ayons une structure qui est indépendante à même d'organiser les élections pour les Congolais. Et non pas organiser les élections pour un groupe d'individus bien déterminés. Ça ne rassure personne. Si on avait une structure indépendante, une structure, vous savez, dans des pays comme, prenons le Ghana, il y a une structure qui organise les élections. Cette structure-là n'a pas la main liée. C'est une structure qui travaille d'une façon indépendante. Et après les élections, il n'y a pas de problème. Les gens se réjouissent parce que le travail a été fait correctement. Donc, nous devons arriver à ces niveaux-là. Donc, et nous, Congolais, nous avons la Constitution, certes, mais nous n'avons pas la philosophie de la Constitution. Nous devons à tout prix, nous, la population, faire à tout prix, à pousser les dirigeants à respecter les différents textes qui organisent les pays. Et c'est ça, être un compatriote. C'est-à-dire, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, une fois que les textes ne sont pas respectés, il faut s'élever et décrier ce phénomène. Parce que je suis aujourd'hui député, mais demain je ne serai pas député si le pays ne marche pas bien. Donc moi-même, je vais souffrir, et mes enfants vont souffrir, mes petits-enfants vont souffrir. Alors, luttons tous pour que les choses...
Voilà. Alors, on va revenir vers vous, parce que vous avez dit, c'est une question de conscience. Hein. On voit à 2006, les gens s'opposent. Déjà, le problème commence quand il faut désigner les animateurs de la CENI. On ne se met jamais totalement d'accord, ou soit partiellement, mais avec toujours des contestations. C'est un problème sérieux dans notre système de fonctionnement démocratique. Alors, on revient à vous. Nous avons aussi des auditeurs qui nous ont rejoints dans ces débats. Nous avons Gu qui nous appelle de Kananga, dans la province du Kasaï occidental. On va écouter Gu. Gu, bonjour.
Gu Kambui, à Kananga, au Kasaï central. Bon, mon point de vue autour de la question relative à la loi sur la répartition de sièges qui a été débattue, je pense qu'il était recevable au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, nous faisons notre lecture dans le sens que depuis que ce processus a été engagé ou déclenché, à partir même des animateurs, il y a toujours un manque de consensus jusqu'à ce jour. Bon, c'est déjà une procédure déjà engagée, que nos amis du FCC ne puissent pas...
Ah, on a des petits soucis, on a perdu Guy qui nous appelait de Kananga. On va plutôt aller à Tshikapa. François, vous êtes avec nous. Bonjour François.
Je salue justement la recevabilité de la loi portant répartition des sièges au niveau de l'Assemblée provinciale, bien sûr en projet, puisque au vu des enjeux de l'heure, nous devons accélérer la vitesse supérieure, comme le train est déjà sur le chemin électoral ou la voie ferrée électorale. Ainsi, il est vrai que plusieurs circonscriptions électorales ont perdu des sièges et d'autres en ont justement bénéficié. Bon, ce n'est pas de la mauvaise volonté de la CENI, mais sinon, cela dépendrait de la capacité mobilisatrice des électeurs lors de l'enrôlement. C'est ainsi qu'il a été demandé aux acteurs politiques que nous sommes qu'on pouvait faire une sensibilisation médiatique, porte à porte, une sensibilisation de terrain. Hélas, certains ont répondu, les autres ne l'ont pas fait. Je donne un exemple pour la ville de Tshikapa, qui a toujours 3 sièges au niveau national, mais instamment, la ville se voit perdre un siège.
Voilà. Alors, il y a aussi, lui, il estime que les choses sont déjà en route, il faudra continuer. Dans des endroits où on a perdu, on a ajouté. On va voir avec vous, honorable, parce que vous avez déjà participé à l'expérience électorale. Vous examinez, la loi s'examine à l'Assemblée nationale, parce que c'est le grand débat, c'est autour de ici, on a perdu un siège, ici, on a augmenté. Alors, dans le fait, comment vous allez procéder par rapport à ça? Avant d'écouter Dieudonné qui est à Kinshasa, on revient à vous. Parce que là, le projet de loi est là-bas, il se discute, et vous êtes autorité, comme on dit, législative. Alors, dans la pratique, comment ça se fait? Si l'Assemblée se rend compte qu'il y a des endroits où des chiffres en termes de sièges, est-ce que l'Assemblée a-t-elle l'autorité de pouvoir réajuster ou modifier selon le vœu exprimé par les uns et les autres?
Bon, merci beaucoup. À ce qui concerne les ajustements de gauche à droite, c'est un peu difficile. Difficile dans le fait que les députés ne participent pas au processus de l'enrôlement.
Okay.
Donc, on envoie les chiffres bruts et il n'y a pas moyen
de les manipuler,
de chercher à savoir pourquoi on a donné tel chiffre. Donc, c'est difficile de vérifier. Donc, il fallait que le fichier soit correctement nettoyé pour que nous puissions avoir alors des chiffres corrects. Et pour nous permettre tout simplement de...
Mais qui devait déclarer que ça, ce sont les chiffres corrects?
Mais les chiffres corrects, ça devrait venir d'abord des nettoyages. Les nettoyages, il faut une structure ou une organisation crédible pour nettoyer les fichiers électoraux.
Est-ce que ce n'est pas aussi la faiblesse de croire toujours qu'il faudra une autre structure pour venir nettoyer ce que nous avons fait ou ce que la CENI a fait, d'autant plus qu'on doute déjà de ce que la CENI a fait? Non. Et quand chaque fois il faudra recourir à une structure qu'on estime être experte ou je sais pas crédible, ça jette encore le discrédit sur ce que nous faisons. Non, on estime qu'est-ce que nous faisons, c'est pas bon. Il faut les confirmer avec les autres.
C'est pas bon parce que nous n'avons pas une structure organisatrice fiable. Et nous devons le dire à haute voix. La CENI n'est pas une structure fiable qui travaille au milieu du village.
Mais depuis 2006, la CENI n'était pas fiable. En 2011, la CENI n'est pas fiable. 2018, elle n'est pas fiable. 2023. C'est pas possible. Non, mais pourtant, elle est l'émanation de vous.
Non, ce n'est pas l'émanation de nous. Kadima n'est pas désigné par les députés. Kadima est Boubina.
Non, mais la loi prévoit quand même que les membres de la CENI viennent de différentes structures.
Effectivement, est-ce qu'on laisse à ces structures-là le choix de désigner un homme capable de diriger la CENI? Non. depuis 2006, nous continuons d'accepter pratique, d'accepter mauvaise pratique. Si on dit que non, la CENI sera dirigée par quelqu'un de la société civile, il faut que le gouvernement s'investisse à travers différents mécanismes pour que la personne qui sera à la tête de la structure soit de son obédience. C'est toujours comme ça. Et c'est ce qui jette de l'opprobre sur la CENI. Donc et nous Congolais, donc moi personnellement, quand je vois comment les pays fonctionnent, comment nous agissons, chacun tire les rideaux de son côté, au lieu que nous tous nous puissions travailler, nous puissions militer pour que ce pays soit réellement un pays démocratique où nous avons des institutions fiables et non pas des hommes boutiqués de toutes pièces pour diriger des structures. Donc moi personnellement, ça me gêne. Ça me gêne, je me dis, en tout cas, nous sommes mal partis et nous allons léguer à nos enfants
alors,
un pays
pour revenir maintenant sur la répartition des sièges. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites au niveau de l'Assemblée nationale dans les débats où on estimait qu'ici on a perdu un, on a ajouté deux. Mais concrètement, vous l'avez dit, l'Assemblée n'a pas la possibilité parce qu'elle manipule les chiffres. Alors, comment ça se fait maintenant la suite?
Bon, la suite est que au niveau de la commission politique, administrative et juridique, la commission se focalise sur la littérature, tout simplement. Tout ce qu'on a développé comme littérature dans les annexes, et ainsi de suite. Donc, est-ce que cette... parce que, en fait, les chiffres proviennent de phrases. Il faut arranger les phrases pour que les phrases soient correctes et que ça puisse s'adapter aux chiffres que la CENI a donné. Est-ce que ça suit la loi ou non? C'est tout simplement ça. Parce que si on suit les chiffres, c'est un peu compliqué. Par exemple, vous voyez, tu vois, avec 834 028 électeurs, avec neuf sièges. Et vous voyez une autre province avec un chiffre plus important que tu vois pas
mais avec peu de sièges.
Mais
est-ce que à ce niveau-là, au niveau de l'Assemblée, peut-on inviter la CENI à pouvoir quand même expliquer ces déséquilibres-là? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça se prévoit dans le traitement de la loi? Est-ce que la CENI peut-elle être invitée pour pouvoir expliquer?
Oui, et la CENI est là. La CENI est là. La CENI peut vous donner des explications. Normalement, dans des coins où il y a beaucoup
d'enrôlés.
Non, pas beaucoup d'enrôlés, beaucoup de circonscriptions électorales, on peut trouver un peu une raison à ce stade-là, parce que chaque circonscription électorale a droit à un siège d'abord, même s'il y a un enrôlé. Donc, cette circonscription a droit à un siège. Même si on n'atteint pas le seuil, vous avez droit à un siège. Chaque circonscription électorale.
Ça, c'est un détail intéressant dans l'explication pédagogique.
Il y a plusieurs villes, tout ça, même si la ville n'a que 5000 enrôlés ou 5000 personnes, vous avez droit à un siège. Mais d'autre part, moi, personnellement, je ne maîtrise pas très bien tous ces phénomènes. Et moi, je crois pour ma part que il était souhaitable que nous puissions travailler même pour essayer de mettre un mécanisme pouvoir nous permettre d'abord de réduire sensiblement le nombre de députés nationaux. Ça, c'est un. De deux, que nous puissions travailler dans le sens de la solidarité nationale. C'est-à-dire ici, chaque territoire, par exemple, que nous puissions dire que voilà, chaque territoire a deux députés. Un point très haut, on ne tient pas compte
des nombres d'inscrits. Ça crée un équilibre.
Un équilibre. Deux députés. Et si nous avons deux députés, nous avons 145 territoires.
Ça fait 145 députés.
Ça fait, donc, si c'est 1-1, ça fait 145. Si c'est 2-2, ça fait 290. Et dans des villes, on étudie comment...
Le mécanisme
pour répartir les sièges au niveau des villes. Et ça va nous permettre d'avoir au moins 350 députés au lieu de 500. Parce que vous savez, avec les 500 députés, il y a toujours à boire et à manger. Il y a
Est-ce que ces genres de réformes, vous les avez déjà coulées dans un document. Je crois que le lundi, la semaine passée, le mercredi, j'ai reçu ici on a eu un débat avec un regroupement politique aussi qui propose un certain nombre de réformes en estimant qu'il y a beaucoup de choses qui font que ça ne marche pas. Ils ont lancé les débats autour de ça. Est-ce que c'est ce genre de réforme, vous pouvez aussi lancer un débat autour de ces questions-là, des modes de désignation des députés, parce que la Constitution, ce n'est que l'émanation, on peut la modifier, on peut trouver ce qui s'adapte mieux pour éviter certaines choses.
Exactement, je crois que... Bon, évidemment, je n'ai pas eu le temps de suivre ces débats-là. Je crois pour ma part que la structure peut marcher très bien avec moi dans les raisonnements. Et pour engager ces débats, il nous faut être à la veille de la révision de la Constitution. Parce que tout commence par la Constitution. Et si tout est bien fignolé dans la Constitution, le reste va suivre.
Alors maintenant, parce que vous examinez déjà la loi, vous avez dit il n'y a pas beaucoup de choses qui vont être modifiées. Mais de votre connaissance, parce que vous avez les textes peut-être avec vous, vous estimez qu'il y a vraiment des endroits où y a-t-il eu volonté manifeste d'éliminer le nombre d'élus?
Bon.
Sans avoir à s'en prêter les intentions aux uns aux autres.
Effectivement. Et si je me prends, par exemple... le cas de la province du Haut-Uele. Dans la plupart des cas ici, tel que j'ai essayé de voir la philosophie utilisée par la CENI, je crois que la CENI n'a pas fait un travail de qualité. Et la CENI s'est contentée de maintenir le nombre de sièges par province tout en faisant de soustraction de gauche à droite selon sa volonté. C'est-à-dire ici, telle circonscription au pic, un siège ici, on amène de l'autre côté, au pic là-bas, on amène ça, et puis on garde... Donc cet exercice-là pour montrer aux gens que non, voilà, il y a eu un travail.
Alors ça dit que la logique serait que la CENI, comme elle a déjà la base des données de 2006-2011, en réalité, ça dit que on fait les copier-coller, on peut dire ici. C'est-à-dire qu'on se réfère à ce qu'on a déjà,
effectivement.
On réajuste
seulement. La CENI s'est référée au nombre de sièges de 2018, mais a créé un peu une distraction, a piqué un siège d'un côté, a ramené de l'autre côté, donc d'un côté à l'autre. C'est un peu ça. Il n'y a pas eu travail
de
profondeur.
Alors, nous allons maintenant avec les auditeurs. Il y a notre ami qui nous a rejoint aussi, c'est Dieudonné qui est ici à Kinshasa. Dieudonné, bonjour. On vous écoute.
Bonjour Radio Okapi. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Radio de la Paix. C'est Dieudonné Chilombo de Kinshasa. Concernant le sujet du jour. Bon, moi je demande quand même à certaines autorités, à certains hommes politiques, surtout ceux du FCC et certains opposants, d'apprendre quand même, d'analyser le sujet lorsque il y a un problème analysé. Ils sont en train de condamner les agents de la CENI comme il y a eu l'augmentation des chaises dans d'autres provinces il y a eu diminution. Je ne sais pas dans leur tête là, ils pensent quoi concernant les catastrophes, les guerres, ce qui était arrivé. Parce que c'était clair. Il y a d'autres provinces qui...
Voilà. Alors, lui, il estime qu'il y a eu certaines choses qui ont créé l'impact sur le nombre d'enrôlés. Alors, Siméon est à Goma. Bonjour, Siméon. Voilà. Alors, ça dit qu'on a encore... Dieudonné est encore avec nous. Dieudonné, oui, il n'a pas encore fini son argumentaire. Dieudonné. Voilà. Alors, nous avons Siméon qui est à Goma. Voilà. Alors, on revient à vous, honorable Paulin Odjane. Vous l'avez dit. Est-ce que vous estimez qu'à un certain moment... il faudra s'arrêter à partir de la Constitution ou à partir de la conscience pour dire qu'on met en place des mécanismes qu'on estime que ces mécanismes peuvent vraiment amener tout le monde à ce que vous voulez. J'entends vraiment le souci que vous avez de voir les gens travailler vraiment avec conscience. Est-ce que ça, c'est possible qu'on puisse y arriver? Et si on doit y arriver, ça doit passer par quoi exactement?
Bon, merci beaucoup. C'est possible. Nous avons des compatriotes qui sont à même de travailler pour l'intérêt général. Mais tout simplement, comme je viens de le dire, si nous voulons avoir un président de la CENI qui vient de la société civile, laisser la société civile désigner quelqu'un qui est à même de diriger la CENI. S'il faut désigner les représentants de l'opposition, laisser l'opposition désigner ses délégués. Et nous savons très bien, tout le monde sait très bien que non, prenons le cas, si on prend le bloc FCC, si on doit désigner quelqu'un au niveau du FCC, il faut se référer à qui? Il y a des structures du FCC. Et non pas piquer quelqu'un dans la famille FCC et le mettre là, vous dites que non, l'opposition est représentée. Si on doit désigner quelqu'un, on doit prendre quelqu'un de la famille et des assemblées pour la République, alors il faut aller au niveau des assemblées pour demander aux autorités de ces partis pour désigner quelqu'un et non pas piquer quelqu'un là-bas. Donc il y a eu trop de problèmes pour la désignation de membres des composantes et ça tout est politisé. Même ceux qui sont désignés pour aller au niveau de la plénière de la CENI, il y a des cafouillages, nous savons comment les choses se sont passées et ça montre que nous n'avons pas les soucis de mieux faire. Nous ne voulons pas que ce pays soit réellement un pays où les textes soient comme moteur de tout avancement.
Alors maintenant, pour aller plus loin, parce que la prochaine étape, c'est si vous adoptez la loi, elle pourra passer à la promulgation et le processus va continuer avec les dates qui étaient prévues par la CENI pour la réception et le traitement des candidatures. Et là, comment vous entrevoyez la suite?
Bon, je tiens d'abord à dire, la CENI n'organise pas les élections pour elle. La CENI n'organise pas les élections pour le pouvoir. La CENI doit mettre dans sa tête qu'elle organise les élections pour le peuple congolais. Et il faut tout faire pour que ces élections-là reflètent la volonté populaire. Et le forcing qu'on veut faire ici, d'abord, pourquoi la CENI a mis avant la réception des candidatures des députés, des candidats députés nationaux, avant tout? Au lieu qu'on commence même par les professions. C'est tout simplement, la CENI n'a pas d'argent. La CENI cherche plutôt à utiliser l'argent des candidats, donc les cautions ou les cautionnements, pour financer le processus. Donc la CENI n'a pas d'argent et le gouvernement n'a pas d'argent pour donner à la CENI. Il faut maintenant mettre les députés les députés nationaux avant pour récolter tout ce qui est l'argent des cautionnements et puis
continuer le processus. Voilà, on va retourner en ligne avec nos auditeurs. On revient vers vous. Je rappelle encore à nos auditeurs que vous pouvez faire les débats sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
L'actualité en profondeur sur Radio Capi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Voilà, Marie-Paul, vous nous avez rejoint. Vous êtes à Kisangani. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, c'est le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Il faut dire que la recevabilité et l'envoi à la commission juridique, administrative et politique de l'Assemblée national du projet des lois portant répartition des sièges et par la chambre basse du Parlement constitue une étape cruciale pour l'adoption de ces projets de loi. Et le cas échéant, et après l'adoption au niveau de la chambre basse, et le projet sera envoyé au Sénat pour une seconde lecture. Et comme vous le savez, monsieur le journaliste, cette navette parlementaire de ces projets de loi est salutaire afin d'éliminer toutes les impuretés ou incongruités contenues dans ces projets, bien évidemment, sur la répartition des sièges. En ce qui concerne les inquiétudes soulevées par les députés nationaux, relative à l'inadéquation entre les nombres des électeurs inscrits et les sièges attribués, et notamment à la perte de certains sièges. Cela ouvre bien évidemment une boîte de Pandore des fonctionnements parodiques de la CENI dans les opérations de la révision des fichiers électoraux. Et ce sont toutes ces dysfonctions qui ont conduit à ces genres d'inquiétudes soulevées par les députés nationaux. Maintenant, ce qui est du boycott des Front commun pour le Congo, FCC, de l'examen du projet de loi portant sur répartition des sièges, je crois que c'est là un légal inconstitutionnel. Cela pousse bien évidemment que la mouvance qui est la mouvance au pouvoir puisse prendre en compte ces boycotts afin de fédérer un peu tous les partis politiques et tous les groupements politiques à l'organisation des élections libres et démocratiques et inclusives. À mon avis, il sera vraiment nébuleux de confondre les concepts, même si on a une histoire selon laquelle l'IDP c'est aussi de son
cas. Alors pour vous, Marie-Paul, vous estimez que Marie-Paul, vous estimez qu'il faudra fédérer tout le monde autour de ces processus pour les rendre plus crédibles. Merci beaucoup. Jeff Ngoyi est avec nous de Kananga. Jeff, bonjour.
Bonjour, Radio Kapi. Mon avis sur le projet de loi qui parle de la répartition des sièges. À ce niveau du débat, moi, je demande aux parlementaires de se conscientiser. Je demande à la commission PAJ de pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir participer dans le débat sur le projet de cette loi qui parle de la répartition des sièges. Nous sommes en démocratie, nous ne voulons pas que les uns soient à l'aise et les autres soient lésés. Non, c'est ce que nous ne voulons pas. À comprendre tout simplement déjà la contradiction sur le débat que le FCC est en train de mettre déjà pendant que le projet de loi n'est pas encore apporté au niveau de la plénière pour faire le débat et l'adopter. En tout cas, nous demandons à nos frères et sœurs du FCC d'être calme, de pouvoir participer dans les débats. Nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Nous ne voulons pas que le bureau d'embauche soit dictateur.
Alors, Jeff, vous estimez qu'il faudra que permettre à tout le monde de participer, mais dès lors, comment faudra-t-il participer si vous vous rendez compte que votre point de vue ne sera pas considéré dans le débat général, et c'est pour cela que l'FCC estime que le processus est biaisé depuis le début, inutile de pouvoir entrer dans un débat où les bases ont été déjà mal posées. Alors, on va écouter Junior qui est avec nous. Bonjour Junior et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, messieurs les journalistes. Merci beaucoup pour la parole accordée. Par rapport au sujet enregistré aujourd'hui, moi je pense que la démocratie soit d'abord appliquée. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a certains députés de l'opposition qui boycottent leur participation. Il y a la majorité qui soutient ces projets de loi. Organisant le partage des sièges, la répartition des sièges. Entre-temps, il y a la société civile qui a donné son avis par rapport à ça. Moi, je pense que je vais me baser trop sur la société civile. Pourquoi? Parce que nous, en tant que futurs magistrats, nous avons cette obligation d'être impartiales. Comme la société civile, elle contribue à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, en faisant certains plaidoyers, donc elle peut aussi contribuer à l'élaboration des politiques pour résoudre les problèmes qui se posent dans la communauté. Sur base de ça, c'est un privilège reconnu par la Constitution. Comme la société civile n'est pas d'accord ou bien n'est pas d'avis par rapport à ces projets de loi, je pense que le président de l'Assemblée peut revoir d'abord, il peut vraiment appeler ou organiser.
Alors, Junior, vous avez le souci que tout le monde puisse participer, parce que sur la question de participation de tout le monde, on va revenir à notre invité tout à l'heure. Le temps d'écouter Maître Patrick qui nous a aussi rejoint dans les débats, il est à Lubumbashi. Bonjour, quelle est votre réaction par rapport à ça, Patrick?
Bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Radio de la Paix. Je voudrais d'entrée de jeu féliciter la CENI pour son travail réalisé en dépit de toutes les difficultés connues par elle. Cependant, il y a toujours des ratés, comme on l'a dit, tout travail humain ne manque pas de imperfections. Mais il y a lieu ici de remercier le comité de la CENI et également tous les partenaires ayant contribué à la réussite de ce fichier électoral. J.R., lorsque vous parlez du rejet des députés, de quelques députés des FCC, eh bien, c'est un exercice parlementaire tout à fait normal. Ils sont de l'opposition. Rappelez-vous en 2006, rappelez-vous en 2011, rappelez-vous en 2018 également, les députés de l'opposition avaient l'habitude également de sortir. Mais cela ne freinait pas, comment dirais-je, la progression ou l'avancement des travaux effectués par la CENI. Ce sont des manœuvres purement politiques, on peut les dire ainsi. Par rapport aux inégalités, vous allez tout simplement constater que d'une part, au moment de l'enrôlement ou des opérations d'enrôlement, le parti politique, les leaders d'opinion, au lieu d'appeler les gens d'aller se faire enrôler, et ils pouvaient sensibiliser ne fût-ce que les bases électorales, quelques bases électorales, quelques adhérents et tout, pour les amener au bureau de la CENI, avoir les cartes et rentrer tout simplement, et oublier que l'électorat ne demande pas que la base, la petite base ou les petites personnes qui ont eu à adhérer à leur structure. Mais ça englobe presque toute la population sur l'ensemble de la circonscription, j'y arrive, ou sur l'ensemble de la province ou du pays également. C'était une erreur purement politique que les politiques avaient commise autrefois, mais qui aujourd'hui, ça essaie de les attraper également. Si nous voulons amener ces débats sur le plan politique, moi je trouve...
Alors, Maître Patrick Odia, vous estimez que... on se rappellera bien sûr au niveau du FCC PPRD au début du processus, le FCC avait annoncé qu'il n'était pas concerné par l'opération d'enrôlement et d'inscription des électeurs. Je crois que c'est ce que vous voulez évoquer, qu'il faut toujours penser au-delà de son parti politique. Alors, il y a Amos, Kalo, Jérémy et Jules, on va revenir vers vous le temps que notre invité puisse réagir. Alors, honorable Pauline Oudjane, parce que le débat se tient, vous avez dit que la CENI a juste réajusté, on peut dire ainsi, les termes en fonction des anciens fichiers, piqué ici et piqué là-bas. Et alors, dans l'ensemble de Haute-Uele, parce que ça concerne votre circonscription électorale, est-ce qu'il y a-t-il des réclamations majeures par rapport à ça, parce que ça vous concerne individuellement?
Bon, merci beaucoup. Il y a des réclamations notamment dans le territoire de Wamba, parce que le territoire de Wamba avait a présentement 5 députés provinciaux. Maintenant, il reste 4. Là où l'autre territoire qui forage, qui avait 3, c'est maintenant 4 de l'autre côté là. Donc, il y a eu...
Mais est-ce que cela n'a pas tenu compte des nombres d'enrôlés? Quand vous examinez le projet de loi, est-ce que ça n'a pas vraiment respecté le nombre d'enrôlés? Le calcul doit quand même partir du nombre d'enrôlés.
Le problème est de savoir est-ce que ce calcul-là est exact. C'est ça le problème. Parce que moi j'étais sur terrain. D'abord, contrairement à ce que notre ami est en train d'évoquer, dire que non, voilà, on n'a pas sensibilisé les gens, ainsi de suite. Moi, j'ai été sur terrain, j'ai sensibilisé les gens, nous avons utilisé les médias, ainsi de suite. Nous avons toute une équipe sur terrain qui a sensibilisé les gens. Ce n'est pas seulement là, il y a des députés qui sont allés dans leur fief, ils ont sensibilisé.
Mais en attendant, le FCC avait dit qu'il n'était pas concerné par l'opération d'enrôlement. C'est comme si on disait directement aux électeurs de ne pas aller parce que nous, on n'est pas concerné par ces opérations-là.
Le FCC a bien dit que le processus, ce n'est pas correct. Il faut commencer par trouver la solution au processus. L'FCC n'a pas dit qu'il n'a pas besoin d'enrôlement. Non, il a besoin d'enrôlement, mais il faut que le processus soit crédible. Imaginez au niveau de la CENI, les gens qu'on considère comme étant les gens du FCC. Comment on les a piqués? Donc ça pose un sérieux problème. Vous prenez quelqu'un du FCC sans vous référer aux structures du FCC, vous faites de lui un membre de la CENI, non, il représente la CENI.
Alors si on peut avancer, depuis quelques années que on fait les émissions des débats politiques, je ne sais pas si un jour on va se retrouver. En aucune période qu'on va aux élections, j'ai vu une structure accepter les personnes désignées. Toutes nos structures. Cela m'a inspiré même à écrire un bouquin sur la question des associations dans notre pays. Toutes nos structures contestent toujours les personnes désignées. Les églises ne se sont jamais mis d'accord. Quand on désigne quelqu'un, les autres disent que c'est pas nous. Les partis politiques, c'est la même chose. Mais jusqu'à quand on va aller dans, on désigne, les autres contestent et ce n'est pas la première fois.
C'est parce que le pouvoir ne veut pas que les choses aillent de l'avant. C'est clair. Que ce soit à l'époque de Joseph Kabila, que ce soit maintenant, c'est le régime qui se mêle des dossiers qui ne le concernent pas. On vous dit que non, opposition désigne quelqu'un. C'est le pouvoir qui utilise des manœuvres pour piquer les gens là-bas.
Mais c'est plus facile à dire aussi, ça.
Non, moi je connais, c'est comme ça. Parce que moi je sais comment on a désigné les gens. Mais prenons, on donne un quota à Assemble pour la République, Assemble pour le changement. Je sais comment on a piqué nos collègues. C'est lui-même qui s'est promené avec une liste non écrivée.
Mais là aussi, c'est de votre responsabilité de ces personnes aussi.
Oui, ça c'est le système.
Honorable, mais si un parti procède comme ça, c'est aussi le problème du parti lui-même. Pourquoi les personnes dans ce parti ne peuvent-ils pas être capables de dire non, on ne peut pas nous manipuler par les régimes? Parce qu'après tout, on estime qu'elles sont déjà matures, ce sont des responsables qui veulent construire la démocratie.
Effectivement, je tiens à vous dire ici que si nous voulons que le pays aille de l'avant, le ton doit venir d'en haut, d'abord. C'est-à-dire ici, quand vous arrivez au pouvoir, vous dites que non, voilà, moi, je viens, par exemple, de l'opposition. Les pays, nous avons vécu ça. Nous ne voulons plus de ça. Il faut que nous puissions marcher en suivant les règles démocratiques. Mm-hmm. C'est ça la vision d'un homme. Et c'est ça, le pays restera donc redevable à un tel monsieur. Et évidemment, deuxième position, il faut évidemment que la population soit à même de pousser les politiques que nous sommes
au changement.
Au cas contraire, nous allons continuer. À pernicher. Alors, même voilà. Ceux qui tiennent des discours, parce que je viens de suivre l'autre là, les gens qui tiennent des discours comme ça, demain, quand il ne sera plus dans l'Union sacrée, il va changer les discours. Il va partir, parce que les Congolais sont comme ça. Changement des régimes, on quitte ici, on va là-bas. Donc on n'est pas stable. On est vraiment au sous des gâteaux.
Voilà. Alors, permettons qu'on écoute les derniers auditeurs rapidement. On va revenir à vous. Il y a Amos qui nous appelle de Bukavu. Amos, bonjour. En plus bref, parce qu'on doit conclure cet échange, quel est votre point de vue?
De prime abord, je tiens à saluer les auditeurs de la radio Capi, mais aussi les invités au studio. Au fait, Pierrot, nous avons suivi avec intérêt soutenu comment la loi sur la répartition des sièges a été recevable par nos députés nationaux et comment elle a été envoyée à la commission PAJ pour approfondissement et toilettage. Tout le monde sait que depuis 2006, on a toujours accordé 3 mois pour l'enrôlement des électeurs, ce qui n'a pas été le cas. Pour les élections qu'on est en train de préparer. On se souviendra qu'on a accordé 1 mois. Il y a eu des prolongations, mais ce qu'on a vécu, que ce soit à l'ouest, que ce soit au centre, que ce soit à l'est, vraiment, c'était du n'importe quoi. Il y a eu beaucoup de ratés qui ont été dénoncés, mais on se demande réellement pourquoi la CENI ne veut pas écouter les différentes parties prenantes à ce processus électoral. Et ceux-là qui dénoncent qu'il y a eu réduction des sièges qu'ils ont eu en 2018 dans les questions électorales et ce que des sièges qu'ils auront en 2023. Tout ça montre qu'on risque d'organiser des élections de non et le pays va tomber dans le chaos. Voilà pourquoi moi je pense il est encore grand temps que la CENI puisse revenir à la raison. Écouter toutes les parties prenantes, toutes les parties concernées pour ne pas nous organiser des élections de non et plonger le pays dans le chaos. Dans le cas contraire, moi je pense que tout ce qui arrivera au pays sera à la tête.
Ça sera très difficile. Il faudra que la CENI puisse écouter tout le monde. Alors rapidement, il y a Kalo Kalonji qui est en Bujimaï. Bonjour, bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour messieurs les journalistes et bonjour aux auditeurs de la radio Okapi. Je pense que la recevabilité de la loi sur la répartition des sièges et son envoi dans la commission PAJ est une avancée pour moi par rapport à ce processus électoral. Parce que vous vous rappelez que dans le calendrier de la CENI, bien que la date m'échappe, c'est pendant cette période ici que cette loi devrait être envoyée au niveau de l'Assemblée nationale pour son adoption. Voilà ce qu'il faut d'abord retenir à ce niveau ici. Mais si nous pouvons revenir sur les déclarations de certains, certaines préoccupations par rapport à la répartition même des sièges en question, vous savez que le travail fait d'abord par la CENI, ce travail ne s'est même pas limité au niveau de la CENI. Ce travail a été aussi envoyé au niveau du gouvernement. Le gouvernement a eu aussi le temps aussi de faire cette étude-là et puis envoyer ça au niveau de l'Assemblée nationale où le travail doit être fait pour la dernière touche. Alors, je pense que les gens ici, surtout les politiciens, les gens qui doivent compétir à des postes, tout ça, ils doivent toujours s'inquiéter par rapport aux sièges perdus pour certaines circonscriptions. Et ici, il ne faut même pas se voiler la face, parce qu'il faut reconnaître aussi que le travail a été fait. Moi, je pensais que les gens qui commencent aujourd'hui à s'inquiéter, ils devraient nous dire effectivement si les jours de la fermeture, par exemple, de certains centres d'inscription, il y a eu de gens. Parce que selon la loi même sur la CENI, parce que quand on se retrouve à la fin, pendant une période déterminée, pour ne pas aller dans des et que nous n'avons pas de requérants plutôt sur la file d'attente. Moi, je pense que la CENI a des mécanismes. On ne peut pas dire que non, nous attendons les gens jusqu'à... Non, non. D'ailleurs, c'est un travail qui n'est pas obligatoire pour certains. C'est-à-dire ici, quelqu'un peut se dire que je ne prends pas la carte parce que ce n'est pas une carte d'identité. Alors, qu'est-ce qu'on fait faire? En tout cas, voilà ce qu'il fallait retenir par rapport à ce sujet.
Merci, merci beaucoup, Kalonji. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour. Rapidement, votre point de vue aussi.
Oui, la répartition des sièges telle que procédée au sein de l'hémicycle est une bonne chose parce que c'est ce qui démontre que il y a des avancées vers le processus électoral d'ailleurs en vue pour le quatrième cycle électoral. Cependant qu'il faille aussi regarder un peu les donc c'est-à-dire le point divergent des uns et des autres parce qu'il se fait que les camps FCC a boycotté donc ces assises. C'est qu'il faut voir de quel côté il faut pouvoir réunir les deux sons des cloches pour pouvoir, n'est-ce pas, créer une sorte d'unanimité quant à ce projet de loi qui doit d'ailleurs désengorger tout ce qui a trait, n'est-ce pas, aux élections en vue. Moi, je pense que à ce stade, il faut que la commission PAJ, donc c'est-à-dire étudie minutieusement ces dossiers pour pouvoir, n'est-ce pas, présenter des données fiables et vérifiables en vue de pouvoir sortir de l'anonymité pour éviter des remous et surtout lorsque le peuple...
Voilà, alors vous souhaitez, Jérémy, comme les autres, qu'il y ait un consensus autour de ces processus. On va terminer avec vous, Jules, et revenir à notre invité pour terminer cet échange. Jules, vous êtes à Bukavu. Bonjour, quel est votre point de vue rapidement?
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Par rapport à la thématique du jour, Monsieur Pierrot, moi, si c'est ce que je viens de lire aux réseaux sociaux ce matin, et la répartition de sièges et par circonscription électorale qui a été transféré au niveau de l'Assemblée nationale et aujourd'hui à la PAJ. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Cela reflète combien de fois que nous aurons les élections voulues par le délai constitutionnel. Et bien entendu, cela n'est pas gage d'un bon processus. Alors, par rapport à certaines inquiétudes que les Congolais ont toujours, c'est la manière dont la CENI a procédé à l'enregistrement des électeurs. Et parce que vous-même, vous le savez, M. Pierrot, que les Congolais ont beaucoup souffert avant d'avoir leurs pièces, donc la carte de lecteur. Nous avons fustigé plusieurs choses qui auraient beaucoup de machines qui seraient donné à d'autres provinces, entre autres.
Là, il y a eu des problèmes. Ça veut dire que vous estimez qu'il y a eu, oui, il y a eu beaucoup de. Oui, mais c'est débat, je crois qu'il a dû avoir lieu au niveau de l'Assemblée nationale. Mais vous estimez que le fait qu'on puisse examiner la loi ou qu'on puisse évoluer, cela n'est pas un gage d'un bon processus. Ça, c'est très intéressant, votre phrase. On revient à vous, honorable Paulin Odiane, parce qu'on doit conclure cet échange. Alors, quand on parle aujourd'hui, on veut encore le consensus autour de ce processus. Quand on parle consensus, ça veut dire qu'il faudra revenir sur certaines choses. Est-ce que cela ne va pas impacter sur les débats éternels sur les respects des délais constitutionnels? Et ça va aussi vous permettre de lancer votre mot autour de ces débats sur le processus électoral.
Merci. Je crois que les débats sur des débats ayant trait au consensus ne datent pas d'aujourd'hui. C'est tout simplement le fait que la CENI n'écoute pas les gens. La CENI croit qu'elle organise les élections pour le pouvoir. Alors, elle n'a pas besoin des autres personnes. Et je ne sais même pas ce que la CENI va faire. À ce qui concerne, par exemple, Kouamoutou, Massissi, Rutshuru. Vous savez, Kouamoutou, il n'y a que 6 personnes enrôlées. Est-ce que la CENI va encore ouvrir la porte pour les autres candidats pour être enrôlés avant d'aller aux élections? Moi, je ne sais pas, parce qu'avec 6 personnes, les 6 personnes vont élire qui? Et puis vous prenez Rutshuru avec 7 sièges. Il n'y a que 79 000 personnes qui ont été enrôlées. Il en est de même de Massissi. Il y a 8 sièges avec 18 000 personnes enrôlées. La CENI va ouvrir et ça sera quand? Et maintenant, les sièges là, on a attribué sur base de quoi?
Mais c'est pourquoi je posais la question. Dans l'examen de ce projet de loi, est-ce que au niveau de l'Assemblée nationale, avez-vous la possibilité d'inviter la CENI?
Oui, la CENI est toujours là. La CENI est là. La CENI
est-ce
vous dit,
répond
la CENI
à
vous
ces
dit que non, c'est la solidarité nationale. Quelle solidarité nationale? Et si c'est ça la solidarité nationale, les chiffres seront biaisés. Parce que vous attribuez 8 sièges à une entité qui n'a fait qu'enrôler 70 000 personnes. Et cette solidarité va se faire comment? Est-ce qu'on va ouvrir encore les portes pour enrôler les autres citoyens? Mais à Kouamoutou, où il n'y a que 6 enrôlés, les 6 personnes vont aller aux élections pour élire un député, ou on va faire comment? Est-ce qu'il y aura la paix à Kouamoutou avant les élections? Donc toutes ces questions ne trouvent pas de solution. Quand M. Kazadi vient à l'Assemblée, parce que c'est lui qui défend le projet de loi, il dit que non, voilà, la paix sera dans toutes ces entités avant les élections. Est-ce que lui, il a la clé de la paix? Est-ce que l'insécurité a commencé à son époque?
On a que 20 secondes pour terminer. Alors, qu'est-ce que vous proposez peut-être en 30 secondes? Faudra-t-il tout arrêter et discuter et trouver des solutions que vous estimez être capable d'amener à un bon processus, ou exactement qu'est-ce que vous particulièrement vous donnerez comme conseil en un mot pour ce processus, parce que vous êtes quand même une autorité dans cette émission?
Le gouvernement doit être à mesure de fédérer, c'est-à-dire le gouvernement, notre gouvernement ici doit être à mesure de savoir que le pays, on n'a plus besoin des troubles, on a besoin de la paix. Et le développement ne peut pas se faire dans un pays où il y a une insécurité totale, où les gens ne s'attendent pas pour le processus.
Ça veut dire qu'en principe, il faudra qu'on mette les gens autour de la table.
Il faut qu'on mette les gens autour d'une table. On n'a pas besoin de partager les gâteaux comme ils en ont l'habitude de les dire. On a besoin plutôt de rassurer tout le monde autour de ce processus.
Merci beaucoup, honorable Paulin Odiane, député national élu d'Issiro dans la province du Haut-Uele. Merci pour ce message. Merci aux auditeurs. Parole aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net. On se retrouve demain. Merci à Mimi Kindu qui a assuré la mise en onde.